pas comme les autres.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, en remplacement d'Emmanuel Latraverse, c'est avec bonheur que je parle, je pense, pour la première fois, avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Elsie.
Salut, Richard.
Salut, bienvenue à l'émission. Très content de te parler. Merci. Et écoute, moi tu aussi. Te poses la même question que je me pose depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe avec les tests de dépistage rapides? Qu'est-ce qui arrive avec ça?
Ben oui, c'est ça. Ben les tests rapides, sérieusement, il n'y a rien à comprendre. T'sais, on a reçu, en plus, on les a reçus gratuitement du fédéral. T'sais, on se plaignait, on s'est plaint avec raison, là, les frontières, un paquet d'affaires. T'sais, les tests rapides, on en a 4,5 millions dans des entrepôts au Québec. On les utilise pas. Donc, on a, tu sais, après plusieurs revendications, le gouvernement a finalement annoncé, OK, on va les utiliser, non pas dans les écoles, non pas dans les CHSLD, non pas dans les hôpitaux, mais là, on va les utiliser dans les entreprises où, effectivement, il y a des éclosions, donc dans des usines, on pourrait faire 1, 2, 3 tests rapides par semaine. Ça permettrait, bon, tu sais, d'élaguer un peu. Évidemment, les tests sont pas rapides, mais ça nous permettrait tout de même, me semble-t-il, là, il me semble que ça va quand, tu sais, je veux dire, on s'en rend compte. Donc, on pourrait enlever des travailleurs possiblement atteints de la COVID. Et non. Donc, ça fonctionne toujours pas. Il y a des mesures administratives vraiment difficiles. Les entreprises sont pas capables de les avoir. En plus, on a une contrainte supplémentaire. Même les entreprises qui sont prêtes à le faire, on oblige que ce soit un personnel soignant. Donc, une infirmière ou quelqu'un de ce type qui administre les tests, alors que, on sait très bien que pour les tests rapides, c'est vraiment différent. Donc, on pourrait faciliter les choses. Donc, moi, j'aimerais ça que le gouvernement nous explique, tu sais.
Ben oui.
On peut faire la lumière, tu sais. Si c'est pas bon, ben, qu'on nous le dise, pourquoi on veut pas les utiliser.
Ben, tout à fait. Écoute, là, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les parcs par l'extérieur, mais moi, j'aimerais ça savoir dans les shops, dans les usines. Tu sais, sa rue Chabanel à Montréal, les usines de textile, là, où les immigrants travaillent collés les uns sur, à côté des autres, dans des conditions pas toujours fantastiques. J'aimerais ça savoir comment ça se fait qu'eux autres, ils ont pas de test de dépistage rapide. C'est à l'intérieur, le gros problème. Aujourd'hui, dans le National Post, il y a Dennis Derby, de l'Association canadienne des manufacturiers, qui se pose la même question que toi, Elsie. Il dit, tabarnouche, ils sont où? On a en vu, nous autres, des tests de dépistage rapides pour nos nos usines, nos shops, puis ils sont pas utilisés.
Non, mais c'est ça. Puis comme tu dis, là, les usines, effectivement, c'est parce que tu sais, on parle beaucoup des écoles, on parle des lieux publics et tout ça, mais tu sais, il y a un gros, une grosse base de contamination qui se fait dans les entreprises, puis c'est dans les usines notamment. Puis comme tu le mentionnes, il y a beaucoup, malheureusement, de populations vulnérables qui sont collées uns sur les autres. Et donc, pourquoi on pourrait pas les administrer, même à la limite, tu sais, puis là, ça revient à l'autre question, à savoir, tu sais, est-ce qu'on doit obliger la vaccination ou non? Mais tu sais, par rapport aux tests rapides, même à la limite, on veut pas l'obliger pour les travailleurs. Est-ce qu'on peut le proposer, du moins, donc ça faciliterait les choses. Puis il y a quand même des mesures de soutien pour les travailleurs si jamais ils sont atteints de la COVID. Donc on les retire du milieu de travail. Sérieusement, je comprends pas. Tu sais, c'est comme ça fait des mois. Au début, on se disait bon, ok, on doit privilégier les vrais tests. Là maintenant, on voit en plus parce qu'on a mis du personnel affecté aux tests, on les a mis à la vaccination. Donc on voit que nos taux de dépistage diminuent. Donc pourquoi pas ajouter cette mesure-là, puis enlever la contrainte que ça doit être fait par du personnel soignant. Je pense que tu sais, une entreprise est capable de désigner une petite équipe, là, tu sais, qui va être formée adéquatement pour faire ça. Je comprends pas. C'est juste incompréhensible.
Le fédéral a donné 42 millions de tests aux provinces et là, il y en a seulement 10 millions qui sont utilisés. Les autres ne sont pas utilisés. Écoute, ce qui nous amène à une autre question. Est-ce qu'on devrait exiger une preuve de vaccination aux employés?
Ben c'est ça. Ça, c'est une grosse question parce qu'effectivement, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, là, avec la Charte des droits et libertés, etc., d'ailleurs, l'INSPQ, donc l'entité, là, l'Institut national de la santé publique, là, que dirige Horacio Arruda, a demandé un avis à son comité, le comité d'éthique de santé publique. Donc, eux ont fait, bon, des analyses. Ils se sont basés sur des valeurs, donc, pour donner leur avis. Donc, des valeurs comme la liberté individuelle, l'imputabilité, la responsabilité, la confiance, et tu vois, genre. Et évidemment, dans notre société, obliger, forcer quelqu'un, ben, ça peut aller à l'encontre d'une charte ou d'un droit. Donc, évidemment, ils sont arrivés avec un avis défavorable. Et donc, l'INSPQ, ça, c'était en janvier. Donc, reconnaissait pas, recommandait pas la vaccination obligatoire aux travailleurs de la santé. Tu sais, faut savoir, là, les travailleurs de la santé, c'est 325 000 personnes. Tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis on le sait, là, tu sais, la première vague, la deuxième vague, beaucoup des contaminations ont été créées, engendrées par les contacts multiples. D'ailleurs, eux-mêmes, les travailleurs de la santé ont été très impactés et touchés, là, tu sais. Donc, dans la première vague, là, c'est plus de 30 000 employés du secteur de la santé qui ont attrapé la COVID. Tout ça pour dire que, donc, en raison de tout ça, on l'oblige pas, puis bon, ça créerait des conflits potentiellement avec les syndicats, tout ça. Mais là, une bonne nouvelle, en tout cas, puis c'est passé un peu inaperçu, cette semaine, le gouvernement a déposé un arrêté ministériel, puis ils vont pas rendre obligatoire la vaccination, mais ont trouvé, puis je trouve que quand même l'astuce est bonne, c'est une manière de peut-être la forcer, puis moi, on me dit qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui se sont dirigés vers les sites de vaccination, il faudrait savoir le nombre. Et donc, il y a trois mesures maintenant qui sont obligatoires. Donc, le travailleur va devoir fournir une preuve de vaccination quand il travaille dans certains secteurs. Puis s'il veut pas se faire vacciner, ben là, on va le forcer à faire du dépistage trois fois par semaine. Donc, c'est quand même contraignant. Puis, si jamais il veut toujours pas, ben là, on va l'envoyer dans une autre section ou en tout cas un autre département ou encore on l'envoie chez lui sans salaire. Donc là, ça commence à être quand même contraignant. Puis j'espère que ça va augmenter parce que les dernières statistiques, là, à la mi-mars, on avait juste pour Montréal, on avait juste 50 % du personnel soignant qui était vacciné. Tu sais, c'est quand même préoccupant. Tu sais, tu dis, mon Dieu, moi, je comprends pas ça. Tu travailles avec des malades, mais
je comprends pas. Moi, puis tu travailles dans le milieu de la santé, donc tu dois croire en la médecine, tu dois croire en la science. Comment ça se fait que tu te fais pas vacciner? Et d'ailleurs, je suis très content que tu m'aies parlé de ça ici, parce que c'est vrai que c'est passé totalement inaperçu. J'étais pas au courant de ça. Et tu sais, tu conviendras avec moi là. C'est beau qu'on vit dans une société de droit, puis on s'est battu pour avoir des droits, puis c'est important. Mais en période de pandémie, la question, c'est une question existentielle, une question philosophique. Mais est-ce qu'on peut mettre certains droits un peu, en sommeil?
Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement la grosse question. Mais tu sais, moi, je pense que dans la première vague, on ne pouvait pas se le permettre. Parce qu'imagine si tu dis que c'est obligatoire, sinon ben, tu ne viens pas travailler, ben, y a un paquet de gens qui seraient restés à la maison. Puis c'est pas pour rien. D'ailleurs, le gouvernement le savait très bien qu'il y avait des gens qui allaient là, de CHSLD en CHSLD. LD. Puis même encore aujourd'hui, il y en a presque plus, mais il y en a encore des permissions qui sont données à des travailleurs de se promener de centre en centre ou de C3S en C3S, peu importe. Et donc, le gouvernement vit avec ça. Donc, il ne peut pas le rendre obligatoire parce qu'il aurait perdu trop de gens. Mais là, je trouve que c'est peut-être un signe que ça va un peu mieux ou encore une catastrophe annoncée, à savoir que les variants est tellement contagieux que là, on se dit, on a mieux pas prendre de chance, donc absolument que ces gens-là soient vaccinés. Mais, tu sais, c'est. Puis, l'autre affaire, il faut dire que dans le personnel soignant, c'est pas tout. Tu sais, il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a des préposés aux bénéficiaires. Tu sais, quand on dit que c'est des gens qui connaissent la science, etc., ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même niveau, là. Ça prend pas le même niveau d'éducation, c'est plate à dire. Puis, donc, l'idée, c'est pas d'avoir de préjugés, mais à ce moment-là, c'est peut-être d'avoir des campagnes d'information plus importantes aussi dans certains milieux pour favoriser, parce qu'il y a des études qui montrent que quand on explique la vaccination, c'est comme par exemple pour les bébés, là, tu sais, les enfants, on a un taux de transfert ou en tout cas de vaccination plus élevé quand on prend le temps de répondre aux questions, puis tu sais qu'on y va là, tu sais, de façon positive et plutôt que contraignante. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être faire des actions vraiment plus poussées auprès de ces clientèles-là, parce que ça n'a pas de sens.
Mais non, ça n'a pas d'allure.
C'est comme, il côtoie des gens atteints de la COVID, puis de l'autre part, en mode soin. Je veux dire, ça fait pas de sens commun, mais est-ce qu'on peut, puis tu sais, à l'heure des chartes et libertés, ben ça, c'est l'autre point. Oui. Même si on voulait le contraindre, on peut pas.
Liberté! Liberté, Elsie! Répète après moi, liberté! Merci beaucoup.
Ben oui.
Merci beaucoup. Bonne première chronique, Elsie Lefebvre. Merci.
Okay. Salut. Merci, bye.
Alors, tantôt, je croise Benoît qui vient dans la pause, puis j'ai dit à quel point j'ai jailli mon époque. Puis Benoît, ça tombe bien parce que ton époque taillit. qu'elle est drôle.
écoute, rapidement, là, parce que j'ai un monsieur qui m'attend pour parler de pornographie juvénile, parce qu'on a des hébergeurs au Québec, tu sais, ils prennent, parce que l'électricité coûte pas cher, mais ils sont comme les trois singes de la sagesse ou les trois singes de la lâcheté. Tu sais, rien vu, rien entendu, rien dit. Je ne sais pas, il y a de la pornographie juvénile sur nos... On héberge ça sur des sites, mais nous autres, on ne sait pas, on n'a pas accès au contenu puis des menteurs,
mais oui,
surtout des lâches. Fait qu'on va en parler à 10h30. À 11h, on va, je me souviens pas, puis à midi non plus. Fait que ça ressemble à ça.
D'abord.
Non, à midi, j'ai un médecin à Toronto, parce que là, il y a 4500 cas par jour en Ontario. Ça dégénère en Ontario. On vient de fermer la shop, fermer les écoles, tout fermé. Là, c'est pas drôle. Ils viennent de commander 350 nouveaux lits pour les soins intensifs. Ça va pas bien. Là, il manque, si tu lis les journaux de Toronto, il manque des infirmières, il manque des médecins, il manque des lits.
Bon, ben écoute, c'est mes vacances. J'étais censé aller à Toronto, entre autres, une couple de jours.
Ben non, ben oui, bonne idée.
J'avais tout...
Attends ta deuxième dose de vaccin, veux-tu?
J'avais réservé mon hôtel, ça. Fini.
Ah oui. 11h, c'est Geneviève Landry, 9e féminicide au Québec.
Oui, il faut en parler.
Là, tu dis, les publicités, là... Ça marche pas. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Là, c'est quoi la prochaine étape?
Écoute, regarde ça.
Ça s'est passé le 18 mars.
Dans Le Devoir, c'est rendu maintenant un petit encadré.
Oui.
Page 1 à 4.
Un autre. Caroline Labonté,
Le Journal de Montréal, c'est en page 10. C'est rendu qu'on s'habitue.
Oui, c'est moins grave. On va la nommer Caroline Labonté, 40 ans, tuée par Levasseur, son mari, qui avait des antécédents judiciaires, ce que je comprends bien.
Oui.
Là, à un moment donné, tu dis, ça passe-tu? Le message passe. S'il passe pas, il va falloir le faire passer.
Et faites attention, les filles, essayez pas de changer votre chum. Je le sais qu'il est méchant, pis ça, mais moi, je vais le changer. Non. Levez les feutres et sacrez votre camp. On va t'écouter et tout ça gratuitement. Alors, merci à mon excellente équipe, Carl Marchand, Maude Boutet à la recherche. Merci beaucoup à la console réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Lapérière, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain à 8h pour une écoute bien noire.